Bonjour, on était en fait ce matin réunis la CGT avec les secrétaires généraux et secrétaires générales des unions départementales de la Nouvelle-Aquitaine et du Centre Val-de-Loire. Donc c'est des réunions que je fais dans toute la France pour faire le point sur la situation de chaque union départementale, la mise en place de notre plan de travail, etc. Et évidemment, ce matin, on a fait un point approfondi sur la situation politique qui est extrêmement préoccupante du point de vue de la CGT et sur la mise en place du travail de la CGT pour faire barrage à l'extrême droite qui menace aujourd'hui notre démocratie, notre République, notre pays. Puisque nous sommes extrêmement inquiets de la situation, étant donné que dans quelques jours, pour la première fois depuis le régime de Vichy, l'extrême droite peut arriver au pouvoir en France, que l'extrême droite n'a pas changé. Ils ont publié leur programme ce lundi, qui contient toujours des dispositions profondément racistes, en rupture complète avec notre identité républicaine, notre constitution, notamment la fin du droit du sol. Je rappelle que même Pétain n'y avait pas mis fin. La mise en place de la préférence nationale, à savoir que pour ce qui nous concerne, les salariés n'auraient plus les mêmes droits en fonction de leur nationalité, et la mise en place de distinction en fonction des Françaises et des Français, avec certains et certaines qui seraient moins français que d'autres et qui seraient seulement, je cite le Rassemblement national, des Français de papier, puisque les binationaux, donc c'est 3,5 millions de Françaises et de Français qui sont binationaux, pourraient, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, être privés de l'accès à un certain nombre de métiers. Et on voit que la liste des métiers est très large, puisque un député du Rassemblement national a déclaré hier que, par exemple, il considère qu'on ne peut pas être ministre de l'Éducation nationale en étant binational, ce qui était le cas de Najat Vallaud-Belkacem, et qu'il considère que Najat Vallaud-Belkacem n'aurait jamais dû être ministre. Donc on a des propos qui sont gravissimes et ouvertement racistes. L'extrême droite, c'est un danger parce qu'elle est raciste. C'est aussi un danger pour ce qui concerne les libertés, puisque, on le sait, c'est aussi dans son programme, et c'est ce qui se passe partout dans le monde où l'extrême droite arrive au pouvoir. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle remet en cause les contre-pouvoirs, à savoir l'indépendance de la justice, l'indépendance de la presse, l'indépendance des organisations syndicales et de la société civile. Dans le programme du Rassemblement national figure notamment la privatisation de l'audiovisuel public, ce qui est l'audiovisuel public, et puis je mets l'AFP dans le lot, puisque l'AFP a un statut particulier qui est hérité de 1945 pour garantir l'accès à l'information, ce qui serait très dangereux pour notre démocratie. Et puis enfin, l'extrême droite, c'est un danger pour tous les travailleuses et travailleurs, puisque, là encore, le programme publié par le Rassemblement national le lundi permet de faire tomber les masques et de clarifier les choses. On voit bien que le Rassemblement national ne prévoit aucune avancée sociale pour les salariés et s'inscrit dans la continuité directe de l'action économique et sociale d'Emmanuel Macron, puisque ses propositions consistent à mettre en place de nouveaux cadeaux pour les plus riches et pour les grandes entreprises. Il prévoit notamment de défiscaliser les héritages. Or, qui profite d'un héritage, c'est celles et ceux qui sont des héritiers, justement, et c'est une mesure de redistribution centrale de pouvoir fiscaliser les héritages. Deuxième proposition du Rassemblement national, baisser les impôts de production et donc baisser les impôts pour les plus grandes entreprises. Ça s'appelle la CVAE. Et puis la troisième proposition, au lieu d'augmenter les salaires, il prévoit de baisser les cotisations sociales pour les entreprises. Et je rappelle que les cotisations sociales, supprimer les cotisations sociales, ça veut dire moins de droits retraite, moins de droits chômage, moins de droits maladie et donc moins de droits pour les salariés. Et par contre, si on regarde du côté des promesses qui avaient été faites vis-à-vis des salariés, elles ont fondu comme neige au soleil, bien que le Rassemblement national conteste le réchauffement climatique et soit climato-sceptique. Je constate que, en tout cas, le réchauffement climatique, il est bien là sur la fonte de son programme en matière sociale, puisque l'abrogation de la réforme des retraites, elle est au mieux renvoyée aux calendes grecques, puisque dans leur propre programme, c'est renvoyé à l'automne si les finances publiques le permettent. Or, on le sait, Emmanuel Macron a cramé la caisse puisqu'il a distribué 60 milliards d'impôts pour les plus riches. Donc on a un déficit important et préoccupant de la France. Et comme le Rassemblement national ne veut pas augmenter les impôts, au contraire, il veut les baisser, cette situation ne va pas s'améliorer. Donc la conclusion, c'est qu'ils n'abrogeront jamais la réforme des retraites. Je ne parle même pas de la retraite à 60 ans que le Rassemblement national avait promis, puisque ça, ça s'est volatilisé. Sur la question du pouvoir d'achat, donc pas d'augmentation des salaires, pas d'augmentation du SMIC, pas d'indexation des salaires sur les prix. Et en matière de baisse des prix, la promesse de TVA, de baisse de la TVA sur les produits de première nécessité a disparu et il reste seulement la baisse de la TVA sur l'énergie, sauf qu'on sait que dans la situation actuelle, ça serait un cadeau pour Total et les multinationales qui, elles, spéculent sur le prix de l'énergie. Donc nous sommes très inquiets par ce contexte, ce programme qui est très dangereux. La CGT, elle est en campagne pour informer les travailleuses et les travailleurs de ce danger et montrer que des alternatives existent puisque certains programmes prévoient l'abrogation de la réforme des retraites et de l'assurance chômage, l'augmentation des salaires et l'investissement dans les services publics. C'est le programme du Nouveau Front Populaire et c'est la raison pour laquelle la CGT a pris une position sur cette question-là. Voilà. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que dans ce contexte d'une gravité inédite, la CGT appelle chacune et chacun à la responsabilité. Nous, nous prenons nos responsabilités syndicales et nous allons très loin puisque nous considérons que dans ce contexte gravissime où pour la première fois l'extrême droite peut arriver au pouvoir, on ne pouvait pas rester les bras croisés en disant qu'ils se débrouillent, ça ne nous concerne pas. On aurait pu, certains le font, mais nous, ce n'est pas le choix qu'on fait. Et on affronte le débat, et on affronte le débat sur les lieux de travail, sur la question de l'extrême droite. En face, il faut que les autres prennent leurs responsabilités. Il faut que les formations politiques prennent leurs responsabilités et arrêtent tous les petits calculs électoralistes qui ne sont pas à la hauteur de la gravité du moment. Donc ça, c'est un point très important. Et puis la dernière chose, c'est que dans ce contexte, avoir comme le chef de l'État des discours qui mettent dos à dos l'extrême droite avec la gauche, ça n'est pas possible. Ce discours contribue directement à la banalisation du Rassemblement national. C'est ce discours qui permettra au Rassemblement national de sortir majoritaire le 7 juillet au soir, si ils le sont. Et le dernier point que je veux dire là-dessus, c'est que la CGT, elle, a toujours pris ses responsabilités, n'a jamais mis dos à dos l'extrême droite avec une quelconque autre force politique. La CGT, en 2002, en 2017, en 2022, a appelé à faire barrage à l'extrême droite. Et quand il s'agissait de prendre un bulletin de partis avec lesquels nous étions en désaccord, notamment sur les orientations économiques et sociales, nous l'avons fait. Et en 2017 et en 2022, il s'agissait d'Emmanuel Macron qui a été élu grâce à nos voix, parce que nous, nous avons été responsables face à l'extrême droite. Donc là, maintenant, c'est à lui d'être responsable et d'arrêter de jouer avec le feu, de jouer avec nos vies, de jouer avec le pays, parce que le résultat du vote du 30 juin et du 7 juillet, il va être très serré. Il va se jouer à quelques voix près, à quelques circonscriptions près. C'est pour ça que nous appelons tous les abstentionnistes à prendre leurs responsabilités, à aller aux urnes, et que nous appelons Emmanuel Macron à atterrir et à enfin jouer son rôle de chef de l'État au service de l'intérêt général, puisque ce qui se joue le 7 juillet prochain, c'est évidemment l'avenir du pays, l'avenir de la France. Mais c'est au-delà. J'étais mardi dernier à la Confédération européenne des syndicats à Bruxelles, donc avec tous les secrétaires généraux de tous les syndicats européens, et tous et toutes m'ont dit « on vous soutient, on croise les doigts, mais ça a des conséquences pour nous ». Si la France bascule à l'extrême droite, il y a des conséquences au plan mondial. La France, c'est la sixième puissance du monde. Elle est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle est un des membres fondateurs de l'Europe. Évidemment que si elle est dirigée par l'extrême droite, ça a des conséquences sur le multilatéralisme, la guerre à Gaza, la guerre en Ukraine, et aussi sur les droits humains dans le monde et sur ces positions-là. Le G7 s'est réuni il y a 15 jours en Italie à l'invitation de Giorgia Meloni, et sur l'exigence de Giorgia Meloni, le G7 a retiré de sa déclaration finale la mention de la défense du droit à l'IVG pour les femmes. Donc on voit ce à quoi conduit le fait d'avoir des gouvernements d'extrême droite dans les pays les plus riches du monde. Ça tire les droits de tous les autres pays, de toutes les femmes, de toutes les travailleuses et travailleurs du monde vers le bas. Nous avons aussi une responsabilité envers les autres pays du monde. La CGT prend ses responsabilités. Nous appelons tous les autres à le faire au même niveau que notre organisation.
Vas-y. Moi, je voulais savoir si le programme de la nouvelle, le nouveau Front populaire, avec des revendications sociales telles que 1500 euros net,
1006. Eh, on commence pas à tirer le programme vers le bas, hein. Attention.
Non, j'ai dit, c'est 1600.
Voilà.
Est-ce que vous pensez que ça va faire reculer l'extrême droite? C'est-à-dire, est-ce qu'en appuyant sur les revendications qui sont légitimes, d'augmentation des salaires, d'égalité professionnelle, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, on va pouvoir donc faire reculer l'extrême droite?
Oui, c'est ce que nous nous sommes dit en intersyndicale le 10 juin au soir. Nous nous sommes dit, et je pense que c'est vraiment très partagé, que face à l'extrême droite, dire non ne suffit plus. Il faut répondre aux aspirations des travailleuses et des travailleurs et aux aspirations sociales. Quand on regarde le premier motif du vote pour les élections européennes, c'est la question du pouvoir d'achat. Et le problème, c'est que y a une erreur du bulletin de vote. On pense que voter pour le Rassemblement national, ça va améliorer le pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs. Ce qui est faux, d'abord, il suffit de regarder leur programme. La CGT ne fait pas de procès d'intention. Nous, c'est des faits, rien que des faits. Et donc, on regarde dans le programme, on voit le programme du Rassemblement national, je l'ai décrit, et puis on regarde aussi ce qu'ont fait les députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'il a fallu voter pour l'augmentation des salaires, ils ont voté contre. À chaque fois qu'il a fallu voter pour le gel des loyers, pour l'interdiction de la spéculation Airbnb, pour la taxation sur les super-profits, pour l'égalité femmes-hommes, pour l'entrée de l'IVG dans la Constitution, ils ont voté contre. Donc la réalité du Rassemblement national, on la voit quand on veut bien regarder factuellement les choses. Et oui, effectivement, l'extrême droite, elle prospère sur les cendres laissées derrière elle par les politiques néolibérales. C'est pour ça qu'il faut avoir des alternatives sociales fortes. Si c'est pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, il faut voter Macron, là, le ressort est de plus en plus usé. Nous, nous savons prendre nos responsabilités, mais nous sommes de plus en plus seuls à le faire parce que les salariés ne comprennent pas ça. Et c'est normal, puisqu'on a en face de nous un gouvernement qui passe en force, piétine les droits des salariés, piétine la démocratie sociale, piétine les organisations et même la démocratie d'une façon générale. Donc il faut des alternatives sociales et démocratiques. C'est pour ça que c'est important que ce programme soit ambitieux. Après, le gros problème, c'est le temps. C'est que Emmanuel Macron a voulu organiser les choses en 3 semaines pour empêcher que le débat ait lieu. Et donc le temps ne permet pas au débat d'avoir lieu et nous met en difficulté pour déconstruire tous les mensonges de l'extrême droite et montrer qu'il y a des alternatives d'un point de vue social et économique.
Cette élection, ces élections législatives ressemblent de plus en plus à une élection du Premier ministre. Raphaël Guzman avait émis le nom de Laurent Berger. Comment vous réagissez à ce nom? Est-ce que ça pourrait être un bon Premier ministre pour la France?
Je suis très contente qu'on reconnaisse les qualités des syndicalistes. Mais en fait, plutôt que de tenter de nous instrumentaliser dans des enjeux de pouvoir ou des enjeux de personnes, ça serait mieux de travailler de façon saine avec les organisations syndicales tout le temps. La deuxième chose, c'est que effectivement, ce sont des élections législatives et pas des élections présidentielles. Et donc, on élit nos 577 députés. Et que nous pensons que la préoccupation des salariés, d'ailleurs, quand on va sur le terrain, tous les secrétaires généraux du pourront en témoigner. Je ne crois pas que dans un de vos tractages, il y ait un salarié qui ait dit « ma question, c'est de savoir qui va être Premier ministre ». C'est pas ça le sujet. La question, c'est pour quelle politique, pour faire quoi, avec quel programme et quel changement pour nous. C'est la raison pour laquelle nous nous positionnons sur le programme du nouveau Front populaire. Et notre question, c'est pas qui va être Premier ministre demain.
On sait que selon le résultat des votes, s'il y aurait une tendance plus partitionniste, plus LFI, le Premier ministre ne sera pas pareil et la politique générale non plus ne sera pas la même. J'imagine ça, vous partagez cet avis.
Y a un programme qui a été établi en commun par les partis politiques qui constituent le nouveau Front populaire. Ce programme, il engage tous les candidats. Et là, la CGT le dit, le rappellera. Hein. Ils sont élus sur un programme. Et nous, si ce programme n'est pas respecté, on se fera entendre et on organisera le rapport de force. Parce que s'il y a quelque chose sur lequel prospère le Rassemblement national, c'est les promesses trahies et des candidats qui, une fois élus, oublient qu'ils avaient dit que leur ennemi, c'était la finance. Donc ça, la CGT, elle sera au rendez-vous. Et nous, notre appel à voter, c'est certainement pas un chèque en blanc. C'est le fait de dire, il y a un programme avec des propositions importantes. Derrière, on se donnera les moyens bien, nous, à ce que ce programme y soit appliqué. Et ensuite, nous, ce que nous disons dans la période, c'est qu'il faut arrêter les enjeux d'appareil et il faut que tout le monde soit capable de faire des efforts pour rassembler et pour mettre de côté tout ce qui divise. Et donc, s'il y a des noms, des personnes qui divisent, elles doivent accepter de se mettre en retrait au vu de la gravité du moment. Les enjeux de personnes, les enjeux d'appareil sont choquants, sont scandaleux. Ça n'est pas le sujet. Et donc, ça ne devrait être le sujet d'aucune formation politique de s'imposer pour être Premier ou Première ministre. La question, c'est, au vu du résultat qui sera celui du 7 juillet, qui sera le mieux à même de rassembler pour conduire et mettre en place ce programme qui est celui du Nouveau Front Populaire ?
Pour l'instant, le Premier ministre, c'est toujours Gabriel Attal pour encore deux jours.
Il est quand même Premier ministre jusqu'au 7 juillet. Hein. Il n'y aura pas de vacances.
La réforme de l'assurance chômage est prévue pour la fin du mois.
Oui.
Le décret n'est toujours pas passé.
C'est une bonne nouvelle pour l'instant. En fait, je suis très inquiète puisque malheureusement, on connaît malheureusement l'entêtement d'Emmanuel Macron, son acharnement à voler les droits des travailleuses et des travailleurs. On l'a vécu sur la réforme des retraites et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre sur la question de l'assurance chômage où Emmanuel Macron a l'outrecuidance de dissoudre l'Assemblée nationale, donc de renvoyer 577 députés chez eux, tout en continuant une réforme majeure par décret, donc sans contre-pouvoir démocratique, puisque évidemment le Sénat s'est mis en vacances et c'était normal. Et donc c'est un hold-up social, parce que ce sont nos droits qu'on vole, mais c'est aussi un énorme hold-up démocratique, sachant en plus que le 13 juin devait être examiné à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui, a priori, avait toutes les chances d'être votée, et qui aurait bloqué la réforme de l'assurance chômage. Donc c'est un pur scandale, et je le dis, ce gouvernement est en fin de vie, ce décret doit être en fin de vie, et donc l'enjeu sur la suite de la réforme de l'assurance chômage, c'est évidemment ce qui va se passer dans les urnes le 30 juin et le 7 juillet, c'est la raison pour laquelle la CGT appelle à voter pour les candidats et candidates qui s'engagent à abroger la réforme de l'assurance chômage, à savoir ceux qui portent le programme du Nouveau Front Populaire.
Oui, je voudrais revenir sur une espèce d'unité qui est en train de se créer. Dimanche dernier à Bordeaux, il y a eu une grande manifestation avec les organisations syndicales, toutes les associations féministes, tous les citoyens qui étaient inquiets pour le droit des femmes face à la possibilité du RN au pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est de cette façon-là qu'on doit construire le Nouveau Front Populaire ?
Ce qui est sûr, c'est que la société civile, elle joue un rôle central. Et là, on sait le rôle que la CGT a joué et que globalement, la société civile, les citoyennes et citoyens ont joué depuis le choc de l'annonce de la dissolution. Si on n'avait pas pris les choses en main, en appelant à se mobiliser, en appelant à l'unité, en appelant à l'unité sur un programme de rupture, on en serait encore au point des élections européennes avec des partis de gauche qui passent plus de temps à régler leurs comptes entre eux qu'à affronter les fascistes ou le patronat. Ce qui est sûr, c'est que nous jouons un rôle central et nous pensons que les citoyennes et les citoyens doivent continuer à jouer un rôle central parce que c'est la pression populaire qui permet de faire progresser les choses. Et l'autre chose qui est sûre, c'est que nous sommes très inquiets pour les droits des femmes, puisque le Rassemblement national, c'est le parti dont 30 députés ont refusé de voter pour l'entrée du droit à l'IVG dans la Constitution. C'est le parti dont tous les alliés au plan mondial, quand ils arrivent au pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est de remettre en cause le droit à l'IVG des femmes. Et c'est un parti qui, à chaque fois qu'il y a eu des lois pour les droits des femmes dans les assemblées, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, ils ont voté contre. Donc on sait que l'extrême droite est un danger pour les droits des femmes. Et puis aussi, je le dis parce que demain, ça sera la marche des fiertés à Paris, pour les droits des LGBTQIA+, et des personnes homosexuelles. Le 12 juin à Paris, il y a eu une grave agression homophobe avec un homme qui s'est fait passer à tabac par 4 militants du Rassemblement national qui, en garde à vue, ont même déclaré clairement les choses. Dans 3 semaines, on va casser du PD. Donc je crois que les choses sont claires. Le point positif, c'est qu'on est encore dans un État de droit et dans un État républicain. Et donc, ces quatre militants du Rassemblement national ont été condamnés en comparution immédiate à 6 mois de prison avec sursis. La question que je pose, c'est qu'est-ce qui se passerait demain si Bardella était Premier ministre et si le Rassemblement national contrôle les préfets, les forces de police et les parquets ? Est-ce que de telles agressions homophobes, racistes, sexistes, contre les militantes et militants, parce qu'il y en a de plus en plus, notamment là depuis quelques jours, parce qu'il y a une parole raciste et d'extrême droite décomplexée, comment est-ce que ces agressions seront condamnées ? C'est pour ça que nous sommes extrêmement inquiets, puisque l'extrême droite, c'est le parti du mensonge, c'est le parti sexiste, raciste, homophobe qui s'attaque aux libertés, puisqu'ils ne veulent pas rendre le pouvoir, mais c'est aussi le parti de la violence, qui s'adosse sur des groupuscules violents.
Est-ce que vous pensez que, justement, cette unité populaire qu'on recherche, elle sera en capacité, au lendemain des élections, si malheureusement ce n'était pas ce qu'on attendait, justement, de maintenir cette unité et de faire, quelque part, un contre-pouvoir ?
Vous pouvez répéter la question ? C'était trop compliqué, là.
Ah, ouais. Imaginons qu'on est devant la réalité où le RN est en tête. Mmh. Comment on s'organise ? Comment on élargit le front ? Quelle stratégie on a pour résister ?
Oui.
C'est ça, la question.
D'accord. Eh bien, aujourd'hui, la CGT, elle met toute son énergie pour empêcher ce scénario catastrophe. Mais évidemment, on prendra toutes les décisions ensemble, pas à pas, en fonction de la situation. Donc nous allons nous réunir, toutes les unions départementales et toutes les fédérations, le 1er juillet pour décider de la position de la CGT d'entre-deux-tours. Nous nous réunirons ensuite en intersyndicale, je pense que nous pourrons avoir une position unitaire sur ce point. Et ça sera pareil pour l'après 7 juillet. Nous nous réunirons le 9 juillet, toutes les unions départementales, toutes les fédérations, pour avoir un échange sur la situation. Et puis nous aurons des réunions unitaires avec l'intersyndicale et avec toutes les organisations de la société civile avec lesquelles nous travaillons. Pour effectivement, si jamais le scénario du pire se confirmait, organiser la résistance, parce que c'est de ça dont il s'agira, oui.
Je rebondis sur la question que vous posiez tout à l'heure sur l'assurance chômage. Vous n'excluiez pas de potentielles grèves pendant les JO. Si les décrets sont parus pour l'assurance chômage et en fonction des résultats de la semaine prochaine, est-ce qu'on envisage des actions ou...
En fait, il faut quand même dire que la dissolution, elle rebat toutes les cartes. C'est-à-dire, ça, c'était dans le contexte dans lequel on était. En fonction du résultat du 7 juillet, on peut avoir un gouvernement de Front populaire dont le premier geste est d'annuler ce décret. Donc, dans ce cas-là, évidemment, pas de grève. Ça serait une grande victoire pour les syndicats. Comment ? Entre deux tours, si on va débattre ensemble le 1er juillet et en intersyndical le 1er juillet au soir, de mobilisation qu'on peut appeler dans l'entre-deux tours, effectivement. Mais ça, je ne vais pas vous le dire puisqu'on ne l'a pas décidé ensemble. Et ça sera quand même sur la situation de l'extrême droite. Mais nous, évidemment, en intégrant les revendications sociales, bien sûr, qui seront intégrées dedans. Ensuite, sur la question du décret assurance chômage, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne lâchera pas. C'est une réforme qui est scandaleuse, qui est honteuse d'un point de vue social et d'un point de vue démocratique. Nous sommes en train d'examiner toutes les voies et possibilités de recours juridique. D'un point de vue unitaire, si on le fait, on fera les organisations syndicales ensemble. Et en fonction de la nouvelle donne politique du 7 juillet, on reprendra la bataille pour l'abrogation de cette réforme honteuse.
Sur la bataille contre les idées d'extrême droite, on a vu que dans les organisations syndicales, il y avait un certain nombre de sympathisants qui étaient attirés par le vote RN, en pensant certainement renverser la table de cette façon plus facilement, ou peut-être que c'est pour d'autres raisons. La CGT, je pense, a pris sa part de travail, et qu'en interne et aussi vis-à-vis des autres organisations syndicales, pour se battre contre l'infusion des idées d'extrême droite, y compris dans les organisations syndicales. Et je pense que Visa, par exemple, l'organisme Visa a pu jouer un rôle.
Oui. Et donc, quelle est la question ?
Est-ce que vous pensez que ça peut...
Oui. Oui, bien sûr. En fait, quand on regarde, donc nous, on ne sait pas dire combien de nos syndiqués votent pour le Rassemblement national, tout simplement parce que ça s'appelle la démocratie et la liberté de chacune et de chacun de voter ce qu'il souhaite dans l'isoloir. Et ça, je le dis, dans ces moments de remise en cause démocratique grave, alors là, la CGT, ça, elle le préservera toujours. Par contre, ce sur quoi nous sommes très clairs, c'est que on ne peut pas être dirigeant syndical et afficher des orientations racistes, sexistes, homophobes, ou afficher un antisémite également, évidemment, afficher un rattachement à un parti d'extrême droite. Donc dès que un responsable de la CGT a un affichage d'extrême droite ou affiche des convictions racistes, sexistes, homophobes, antisémites, là, l'adhésion est très claire et... on l'a déjà fait, on le fait très régulièrement. C'est pour ça que là, depuis l'entre-deux-tours, on n'a pas eu de problème majeur parce que le travail est fait. Après, ce que montrent les sondages, c'est que dans nos sympathisants, il y en a un certain nombre qui votent pour le Rassemblement national. Ça n'est pas étonnant, puisque si l'extrême droite est aux portes du pouvoir, c'est qu'elle progresse partout, y compris chez nos sympathisants. Donc ça amplifie, nous, notre sentiment de responsabilité sur le travail à faire. Mais ce que je note, c'est que, je crois, le dernier sondage que j'avais vu, c'était 24% des sympathisants CGT, alors que le vote Rassemblement national en moyenne dans la population était à entre 30 et 34%. Donc on est entre 7 et 10 points en dessous de la moyenne. Donc on voit une protection relative des organisations syndicales, pas suffisante, mais relative sur ce point. Et la dernière chose, c'est que pour lutter contre l'extrême droite, il faut lutter contre les causes de la montée de l'extrême droite. Un discours moralisateur ne suffit pas. Et donc, bon, les causes, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de temps pour en parler parce qu'elles sont multifactorielles. Alors il y en a une très grosse. La violence des politiques néolibérales et le sentiment qu'il n'y a pas d'alternative. Et donc l'impression d'être trahi quand la gauche arrive au pouvoir et qu'elle mène une politique de droite ou pas très loin des politiques de droite. Donc ça, c'est un point extrêmement important, le sentiment de « on a tout essayé sauf le Rassemblement national ». Donc c'est à ça qu'il faut tordre le cou. Et donc ça renvoie aussi des responsabilités aux forces de gauche de s'unir d'abord et puis de s'unir pour faire différemment. Donc en tirant aussi des leçons sur les échecs passés. Merci à vous et bon courage.